Alors, il y a ici une série de questions que vous m'avez posées. Les Béné Noir ont-ils le droit d'habiter en Israël? La réponse est oui, mais il y a derrière ce oui toute une complication au niveau de la halakha. Il y a, du point de vue de la halakha originelle, telle que le Rambam la présente en Ilchot Avodah Zarah, ne peuvent résider en Eretz Israël que les enfants d'Israël ou les ce qu'on appelle Gertoshav. Le Gertoshav, c'est un statut particulier, c'est-à-dire l'étranger résident. C'est un non-juif qui a accepté la loi noachide devant tribunal, et donc il a le statut du Gertoshav. Seulement, le Rambam dit une halakha qui est tout à fait corroborée par les sources talmudiques, c'est que le statut du Gertoshav n'est applicable que dans un temps où le jubilé est appliqué. Le jubilé, en hébreu yovel, c'est la 50e année, après 7 cycles de Shemitah, d'année sabbatique. On arrive à la 50e année. Dans la 50e année, les terrains reviennent à leurs propriétaires originaux, les esclaves sont libérés, la terre n'est pas cultivée, etc. Ça se passe une fois tous les 50 ans. Or, la loi du jubilé, en hébreu le yovel, n'est applicable que dans certaines conditions qui aujourd'hui ne sont pas réunies. Une des conditions, par exemple, c'est la présence de la majorité écrasante des enfants d'Israël sur leur terre. Ce n'est pas encore le cas, ce sera bientôt. Mais ce n'est pas la seule condition, il y a encore d'autres conditions, telles que par exemple que le territoire soit divisé entre les tribus. Oui. J'ai rien compris.
Le territoire aujourd'hui n'est pas le même que celui de l'époque.
De quelle époque?
Le roi David.
Effectivement, ce n'est pas les mêmes frontières qu'à l'époque du roi David. Et alors?
Ça marche sur les frontières d'antan ou les frontières d'aujourd'hui?
Ça marche. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, est-ce que ça voudrait dire d'abord qu'il faudrait qu'il y ait tout le territoire entre nos mains? Ce n'est pas évident. Mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait toutes les tribus. Enfin bref, les conditions requises pour que le Yovel soit appliqué sont encore, je ne sais pas si vraiment très loin de nous, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Or, le statut du Gertoshav n'est applicable qu'à l'époque où il y a le Yovel. Aujourd'hui il n'y a pas le Yovel, donc il n'y a pas le Gertoshav. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y a pas de Gertoshav, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors nous avons à ce propos une controverse à trois pôles. Le Rambam, le Ra'avad et le Kesef Mishneh. Le Rambam dit le statut du Gertoshav n'est applicable qu'à l'époque du Yovel. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas le Yovel? Ça, le Rambam n'est pas très clair là-dessus. Le Ra'avad, Rabbi Avraham ben David, appelé par nos frères Ashkenaz le Ra'ived, a compris que d'après le Rambam, quand il n'y a pas de statut de Gertoshav, aucun non-juif ne peut habiter en Eretz Israël. Serait-il le plus juste d'entre eux? À ce propos, le Ra'avad rétorque « Non, je ne suis pas d'accord avec le Rambam concernant l'habitation en Eretz Israël. » D'après le Ra'avad, à l'époque où il n'y a pas de Yovel, n'importe qui peut habiter en Eretz Israël et même à Jérusalem, alors que d'habitude c'est interdit même pour un Gertoshav. Mais à l'époque où il n'y a pas de Yovel, tout est autorisé, mais il y a une réserve. Nous ne sommes pas tenus de veiller au bien-être des non-juifs habitant notre terre, parce que nous ne sommes pas dans la pleine puissance de notre économie. D'accord? C'est comme ça que le Ra'avad comprend. Rabbi Yosef Karo, dans son commentaire Kesef Mishneh, dit que le Ra'avad n'a pas bien compris le Rambam. Il dit que le Rambam pense comme le Ra'avad. Oui? Ça veut dire que même un non-juif idolâtre pourrait habiter en Eretz Israël, d'après l'interprétation du Rambam par le Kesef Mishneh. Jusque-là, vous me suivez? Bon. Maintenant, oui, quoi?
Habiter, ça veut dire avoir une maison, ou ça veut dire...
Habiter, ça veut dire habiter. C'est-à-dire, quelqu'un qui pose une question, en général, quand il emploie un mot, il sait ce que le mot veut dire, en tout cas pour lui. Alors, les Béné Noirs, par exemple, écrivent, ont-ils le droit d'habiter en Israël? Alors, celui qui a écrit la question doit savoir ce qu'il veut dire quand il pose la question.
Mon interprétation n'est pas la même que la vôtre.
Bon, qu'est-ce que tu entends par habiter?
C'est avoir une maison, payer les impôts.
Habiter, ça veut dire habiter. D'accord? Bon. Maintenant. D'accord? Habiter, ça veut dire habiter. Par exemple, je peux très bien habiter dans un pays dans lequel je ne paye pas les impôts parce que je ne suis pas ressortissant du pays. Ça n'a rien à voir. La question de poser, de payer les impôts, pas payer les impôts, n'a rien à voir. Est-ce que je possède une maison ou pas posséder une maison? Ça ne veut pas dire habiter. Je peux habiter dans un hôtel qui n'est pas à moi. D'accord? Ça s'appelle habiter. Maintenant, la question qui se pose. Bon, une fois que nous avons réglé, disons, la marloquette, plus ou moins, nous avons plus ou moins réglé entre le Rambam, Kesef Mishneh, Rahavad, la question qui se pose dans la situation idéale, où il y a le statut du Gertoshav, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, par exemple, ne remplit pas toutes les conditions du Gertoshav? Par exemple, l'idolâtre. Alors, en situation normale, en situation de pleine puissance d'Israël, d'après le Rambam, quelqu'un d'idolâtre ne peut pas habiter en Eretz Israël. La Torah le dit de manière très claire, « Pen yachatiu otrali, de peur qu'il ne te fasse pécher contre moi ». C'est-à-dire l'influence des idolâtres est telle qu'elle peut entraîner Israël et donc la Torah interdit la résidence d'idolâtres en Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'est pas idolâtre mais n'a pas acquis le statut du Gertoshav? Il y a des situations intermédiaires. Le statut du Gertoshav, comment est-ce qu'on l'obtient? Ben, on l'obtient à l'époque où le Yovel accourt, en se présentant devant un tribunal rabbinique et en acceptant les sept commandements noachides. Voilà. C'est ça le Gertosha. Oui, c'est le Ben Noir de l'époque yovélique. Et là, donc, il s'appelle Gertoshav. Maintenant, il y a à ce propos une marloquette dans la Gemara entre trois opinions différentes pour savoir quelle est la quantité de mitzvot qui doivent être accepté par le Gertoshav, par le non-juif pour devenir Gertoshav. Il y a à ce propos trois opinions. La première, c'est celle de Rabbi Meir. La deuxième, c'est celle des Hachamim. Et la troisième, c'est celle de Acherim, c'est-à-dire les autres. Donc trois opinions, Rabbi Meir, Hachamim et Acherim. D'accord ? Ben, c'est pas écrit. Souvent on dit que Acherim c'est Rabbi Meir. Dans ce cas précis, ça ne peut pas être Rabbi Meir puisque Rabbi Meir a lui la première opinion. Donc c'est quelqu'un d'autre. D'accord? Souvent dans les Braïtot, nous avons l'expression Acherim Omrim, d'autres disent, sans qu'on nous dise qui sont les autres. D'accord? De même que l'expression Chachamim Omrim, les sages disent. Mais qui sont les sages? C'est parfois effectivement dégradant. Il y a des raisons parfois, politiques, pourrait-on dire, des Chachamim pour avoir appelé quelqu'un Acher. Bon, mais ça, c'est par exemple dans Maserhet, Horayot. Il y a tout un cas, justement, où il y a eu une tentative de putsch contre Rabban Shimon ben Gamliel au Sanhedrin, et ceux qui ont essayé de le putscher ont eu comme punition d'être cités en tant que Acherim. D'accord? Donc tu as raison, effectivement, il y a quelque chose de dégradant là-dedans. Mais, peu importe, quelles sont les trois opinions dans la Gemara? Nous avons donc Rabbi Meir, Chachamim et Acherim. Rabbi Meir dit que pour être Gertoshav, il suffit de ne pas être idolâtre. C'est-à-dire, à la limite, un non-juif débauché et assassin, mais non idolâtre, aurait le droit d'être Gertoshav d'après Rabbi Meir. L'opinion... Quoi? Oui, débauché, assassin, mais... non idolâtre aurait le droit d'être Gertoshav d'après Rabbi Meir. D'accord? Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. L'opinion de Hachamim, qui est celle de la Halakha d'ailleurs, est qu'il faut qu'il accepte les sept commandements noachides, sans quoi il ne peut pas être Gertoshav. Et l'opinion de Acherim est que il doit accepter toutes les mitzvot, sauf celle qui lui interdit la viande non abattue de manière rituelle. C'est-à-dire, il mange des névélotes, mais tout le reste, Il fait Shabbat, Tefilin, tout ça, il fait. Sauf les, la consommation des Nevelot. Voilà. Rachamim, ils disent les sept commandements Noahri. Donc nous avons trois opinions. Rabbi Meir qui dit il suffit qu'il ne soit pas idolâtre. Les Chachamim qui disent qu'il faut qu'il accepte les sept commandements Noahri. Et l'opinion d'Achérim qui dit qu'ils doivent accepter toutes les mitzvot, sauf une qui est celle qui interdit la consommation des bêtes non abattues rituellement. Oui. Absolument, oui, bien sûr. Ça, c'est la question. Il y a une question ici. Est-ce qu'il a le droit de faire le Shabbat? Ça, c'est la question numéro 6. C'est-à-dire, tu vois une contradiction entre Acherim et cette phrase de la Gemara qui interdit le Shabbat au Goy, n'est-ce pas? Ah, effectivement, quand nous arriverons à la sixième question, Belineder, nous en discuterons. D'accord? Est-ce que tu as la patience? Même si tu n'as pas la patience, de toute façon, tu n'as pas le choix. Bon. Alors, je reviens donc à la Machloket, Rabbi Meir, Chachamim et Acherim. Donc, si c'est vrai que la halakha est comme les Chachamim, qu'il faut les sept commandements Noahid, qu'est-ce qui se passerait de nos jours pour un non-juif qui ne serait pas idolâtre, mais qui n'a pas accepté officiellement les sept commandements Noahid? Alors, est-ce qu'il doit être jeté du pays ou pas? Certains pensent que oui, certains disent que non. C'est-à-dire que d'après le Rav Tzvi Yehuda Kook, dans une analyse qu'il fait d'un texte de la Gemara dans Gittin, en se basant sur Rashi, s'il n'est pas idolâtre, il est toléré. Mais il n'a pas le statut du Ger Toshav, parce que ça veut dire qu'on n'a pas le devoir, par exemple, de veiller à son bien-être. Il est toléré, c'est l'opinion du Rav Tzvi Yehuda Kook, qui est de manière générale acceptée, qui est citée dans l'encyclopédie talmudique, dans l'article Ger Toshav. Oui. Alors ça c'est un problème de politique d'immigration. Ça c'est le problème que nous avons aujourd'hui avec les Soudanais, avec les Thaïlandais, etc. Effectivement, mais ça c'est un problème de politique d'immigration. Mais ce n'est pas un devoir. C'est-à-dire tu n'as pas transgressé la halakha si tu ne l'as pas jeté. Tandis que d'après d'autres opinions, si tu ne l'as pas jeté, tu serais coupable. Oui. Est-ce qu'on a le droit? Oui, on a le droit. C'est-à-dire n'importe quel État, ça c'est politique de souveraineté, d'immigration. Qui sait qui a le droit de résider sur son territoire ou pas, il y a des accords internationaux, mais ça c'est en plus. Il y a des accords internationaux sur, ça s'appelle les réfugiés politiques, les réfugiés de persécution, etc. Mais ça, ce sont des accords signés par l'État d'Israël, c'est en plus de la. Bon, donc ça c'est pour la première question. Les Béné Noirs ont-ils le droit d'habiter en Israël? Vous voyez bien que la conclusion c'est finalement oui, mais il a fallu pour ça vous faire participer à tout un débat talmudique, halakhique et autres. D'accord? Bon. Voilà. Deuxième question. Les Béné Noirs ont-ils le droit de vote? Alors, ça suppose, la question suppose quelque chose qui n'est pas très clair. Non, ça suppose quelque chose qui n'est pas très clair. Qu'il y a un régime, selon la halakha, dans lequel les citoyens ont un droit de vote. Ça s'appelle le régime démocratique. N'est-ce pas? Alors, la question se pose dans la mesure où il y a un régime démocratique. Mais dans la région, par exemple, si vous avez un régime monarchique ou oligarchique, la question ne se pose même pas, parce que même les juifs n'ont pas le droit de vote. Dans un système, comment?
S'il doit faire un référendum.
Oui, il peut, il a le droit de faire un référendum. Mais le problème de savoir, ce n'est pas dans tous les régimes que tout citoyen a le droit de vote. D'accord? Bon. Maintenant, la question de savoir, les Béné Noirs ont-ils le droit de vote? L'opinion majoritaire est que non. Pour une raison très simple. Mais c'est vrai pour n'importe quel non-juif du point de vue de la halakha. Maintenant, l'État d'Israël actuel donne le droit de vote à des non-juifs. Est-il en infraction envers la halakha? Si on dit que le non-juif n'a pas le droit de vote, donc l'État d'Israël, en principe, serait en infraction par rapport à la halakha, s'il donne le droit de vote à des non-juifs. Hein, je pense. Indépendamment du ben noir ou pas ben noir. Disons que c'est tout un débat violent jusqu'à nos jours entre différentes autorités rabbiniques. Je voudrais citer à ce propos deux enseignements. L'un du Rav Herzog, qui était grand rabbin d'Israël lors de la fondation de l'État d'Israël, le Rav Yitzhak Haizik Herzog, et le Rav Shaul Yisraeli. deux grandes autorités halakhiques. Le Rav Herzog disait que, étant donné que l'État d'Israël va être fondé, parce qu'il a écrit ça avant la fondation de l'État, va être fondé sur la base de l'accord de la communauté internationale, donc nous sommes redevables par rapport à la communauté internationale de respecter les lois en vigueur dans le monde occidental, donc d'accorder le droit de vote même aux non-juifs. L'opinion du Rav Shaul Israeli est que on a même le droit de voter pour des parlementaires non-juifs en Eretz Israël, parce que l'interdiction de donner le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas juif dans la Torah, c'est que dans des pouvoirs qui sont transmissibles héréditairement, comme par exemple la royauté qui est transmise aux descendants d'un roi, et qui ne sont pas, mais tandis qu'aujourd'hui les postes de pouvoir ne sont pas héréditaires. Donc l'opinion du Rav Shaul Israeli, qui est controversée, mais je vous l'amène quand même, est qu'il n'y a pas de transgression de la Torah quand on accorde le droit même à l'éligibilité pour des non-juifs. De toute façon, ces questions sont purement théoriques, étant donné qu'aujourd'hui, les normes acceptées par l'État d'Israël au niveau du régime politique sont les normes de la démocratie libérale. Les Béné Noirs ont-ils le droit de faire des sacrifices aujourd'hui? Vous avez compris la question? Quoi, ils font ce qu'ils veulent? Les Juifs aussi font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que... Alors, est-ce que le Shulchan Aruch a interdit aux non-juifs de faire un sacrifice? Hein? La question n'est pas pour les juifs. Est-ce que tu dis que nous avons le Shulchan Aruch, mais le Shulchan Aruch concerne également toute l'humanité. Alors, est-ce que un non-juif a le droit aujourd'hui de faire un sacrifice? Voilà, il va voir, monsieur le rabbin, j'ai un mouton, je voudrais le présenter au Dieu d'Israël. Est-ce qu'il peut le faire ou est-ce qu'il ne veut pas le faire? Comment? Tu penses que? Tu penses que oui, toi tu penses que non? Ah, tu dis que donc l'interdiction que nous avons, nous, de faire des sacrifices n'importe où, c'est parce que la Torah veut que nous soyons tous réunis dans un même temple. Mais pour le goy, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Le goy, il n'est pas obligé. Quoi? Ah, c'est-à-dire que le goy, donc, il aurait le souci d'unité, donc il devrait également faire son sacrifice dans le Beth Amikdash et pas ailleurs. Oui, et toi, tu... Le Beth Amikdash a pris la maison de toutes les nations, donc ça voudrait dire que eux aussi devraient faire leur sacrifice uniquement dans le Beth Amikdash. D'accord? Donc, vous avez ici deux opinions corroborées par différents arguments. Alors, quelle est la halakha? La halakha est qu'il peut faire un sacrifice, même aujourd'hui, n'importe où. Il y a dans le Rambam... Une seconde. Seconde. Pas d'empressement, ne vous en faites pas. On y arrivera. Rambam dans Ilchot Maase à Korbanot. Je vous lis ici le texte du Rambam. Ashohet kodshe goyim bachutz chayav. Celui qui sacrifie des bêtes consacrées par des non-juifs en dehors du Beth Amikdash est coupable. C'est un juif qui va abattre le mouton, il est coupable. Vechen amale otam bachut, de même s'il les sacrifie à l'extérieur. À l'extérieur, c'est à l'extérieur du Beth Amikdash. Veha goyim, mais les goyim, mutarim leakriv olot, l'Hashem bechol makom, ont le droit de présenter des holocaustes pour Dieu en tout endroit. Vehu, à condition, sheyakrivu babama sheyivnu. Qu'ils sacrifient sur un autel qu'ils construisent. Ve assur les sayyan ve la sot shlichuta, on n'a pas le droit de prendre part active et de faire leur délégation. Sheare ne sar alenu leakriv bachutz, parce qu'il nous est interdit à nous de sacrifier à l'extérieur. Ou mutar le orot lahem, mais nous avons le droit de leur donner des instructions. Ou le lamdam et de leur enseigner. He ach yakrivu leshem ha'el baruchu. de leur dire comment sacrifier pour Dieu, béni soit-il. Je connais un Noahid qui, récemment, a présenté deux pigeons en sacrifice sur un autel près de Jéricho. Ça peut se faire. Est-ce que c'est à encourager? Non, pour une raison très simple, c'est que ça risque aujourd'hui, étant donné la culture moderne, de faire une mauvaise publicité pour la Torah d'Israël, mais il faut savoir que c'est vrai. C'est-à-dire qu'un non-juif a le droit de présenter un hola, un holocauste, et non pas un shlamim, il y a une importance à cela, il a le droit de présenter un hola. Un hola, c'est-à-dire une bête qui est entièrement brûlée. D'ailleurs, la Guémara raconte comment Rava a donné des instructions à une reine de Perse comment faire un autel à Babel. Hein, c'était à Babel que ça s'est passé, c'est dans Maseret Zevachim, je crois, page Kuftet Zain ou Kuftet Zain, quelque chose dans ces eaux-là. Voilà, c'est ça qui sont intéressés. Bon. Alors, ça veut dire qu'ils n'ont pas le souci d'union. C'est-à-dire que l'union serait donc facultative. Ça ne veut pas dire que les goyim ne peuvent pas présenter des sacrifices dans le Beth Amikdash. Même à l'époque du deuxième temple, nous avons des témoignages de goyim qui venaient présenter des sacrifices dans le Beth Amikdash. Les béné noirs doivent-ils payer les Beth Amikdash? Ça veut dire quoi payer les Beth Amikdash? Ça veut dire quoi payer le Beth Amikdash? Quoi, le Mahatita Shekel? Non, ils peuvent pas. Mais ils peuvent payer pour la construction. Demain, par exemple, si un goy offre à la synagogue une lampe, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Une lampe, eh bien, on l'accepte parce que c'est sa manière à lui de faire un sacrifice. Pourquoi est-il plus dur d'être ben noir que juif au niveau des punitions? Ah bon? Pourquoi tu dis ça? La question, je reprends la question. Je dis, c'est pas moi qui ai écrit, hein, ne m'accusez pas. Pourquoi est-il plus dur d'être ben noir que juif au niveau des punitions? Non, j'ai pas compris la question. Explique la question.
Quand il y a un juif qui n'avait pas, je sais plus laquelle, il est juste réel de la côte, en termes des noirs, il faut tuer.
Ah, c'est-à-dire pourquoi est-ce que pour les sept commandements noachides, le châtiment c'est la mort, tandis que pour le juif, c'est pas toujours le cas. Et alors? Alors, bon, alors, comment? Par exemple, même pour Ever Minachai. Une seconde. Nous allons faire, d'abord, nous allons donner plusieurs tranches de réponses. D'accord? Soyez patients. Je sais que c'est difficile. Mais vous n'avez pas le choix. La première, tout d'abord, sur les sept commandements noachides, il y en a quatre pour lesquels les juifs aussi sont mis à mort. Qui sont l'idolâtrie, la débauche, le meurtre et le blasphème. Donc ces quatre-là, de ce point de vue-là, les juifs sont... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le blasphème, c'est ce qu'on appelle en hébreu guidouf. C'est une insulte prononcée par rapport à Dieu. D'accord? Alors pour ces quatre-là, la Torah dit, quelle que soit la personne qui l'a fait, juive ou non, juive, il est chayav mita. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Alors qu'est-ce qu'il vous en reste? Trois, n'est-ce pas? Trois. Qui sont, quoi? Le vol... Ever Minachai, c'est-à-dire l'animal vivant, et les tribunaux, n'est-ce pas? D'accord? Alors, bon, pour ce qui est du vol, quand est-ce que du vol est considéré comme du vol? Quand la personne volée considère qu'on l'a volé. Vous connaissez l'histoire du rabbin qui un jour voit qu'un voleur s'est emparé des bougeoirs de Shabbat en argent. Alors, il court vers le voleur pour le rattraper. Et puis après, bon, mais le voleur court aussi. Et le rabbin voit qu'il n'a pas la force de le rattraper. Alors, il lui crie, « Ces bougeoirs, je te les donne. » Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas coupable de vol. N'est-ce pas? Bon. Comment? Ah, le problème, c'est ce qu'il a fait un kinyan. Bon, ça, c'est un point de détail. Mais ce que je veux dire, que le principe du vol, c'est que il y a ce qu'on appelle en hébreu, dans les dilemmas monod, dans les règles d'argent, ce qu'on appelle la mehila. C'est quoi la mehila? C'est le renoncement, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un a une dette envers moi, il me doit 20 shekels, et je lui dis, tu sais quoi, c'est pas la peine de les rendre. Ça s'appelle une mehila. Et les poskim m'ont dit la chose suivante, c'est qu'à partir du moment où les goyim ont institué entre eux des règles de, disons, de knas, comme on dit ça en français, de pénalités, il y a des pénalités, comment, des amendes, voilà, des amendes, et des règles de remboursement du vol, etc., c'est comme s'il y avait au niveau de la société tout entière une mechila collective. Et donc, il n'y a plus de gezel, donc il n'y a plus de vol. Donc, il n'y a pas. Donc, le Chayav Mita pour la cinquième mitzvah n'est pas actuel. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste deux. Hein? Ever Minachai et Dinim. N'est-ce pas? Alors, pour ce qui est des Dinim, ça veut dire quoi Dinim? C'est le devoir d'instituer des tribunaux. Est-ce que ça existe, ça, une société sans tribunaux? Non. Donc, cette règle n'est pas applicable de nos jours. Quoi? Oui, dans la jungle. Terrible jungle. Oui, alors est-ce que c'est actuel quand tu, par exemple, il y a une société sauvage, la première chose que tu fais, tu établis les tribunaux. À part ça, il y a donc ce qui nous reste pour Ever Minachai. Donc c'est-à-dire qu'un non-juif serait condamné à mort pour Ever Minachai, n'est-ce pas? Ever Minachai. Si, pourquoi? Non, on a. Pour ceux qui ont écouté, nous avons d'abord énuméré quatre pour lesquels les juifs sont aussi coupables que le Ben Noir. D'accord? D'accord. Pour ce qui est du Gezel, la cinquième, on a évacué ça parce qu'on dit qu'étant donné qu'il y a des amendes et des pénalités pour les vols, donc c'est comme s'il y avait une mechila collective. Que pour les tribunaux, qu'il n'y a pratiquement pas de société sans tribunaux, alors qu'est-ce qui nous reste? Le Ever Minachai. D'accord? Alors, c'est-à-dire que le Ever Minachai, il serait Chayav Mita pour ça. Oui. Effectivement, les actes de sauvagerie de ce genre seraient répréhensibles. Mais, ça, c'est la première couche. Donc, je vous en ai supprimé déjà 6 sur les 7. C'est quand même pas mal. Mais, en vérité, beaucoup de poskim ont dit, sans qu'il y ait vraiment de sources bien claires pour cela, mais il y a quand même certaines sources qui semblent aller dans ce sens, c'est que la mise à mort dont la Halakha parle, c'est un maximum et pas un minimum. Ça veut dire que la société a le droit pour se défendre même de mettre à mort. Mais ça ne veut pas dire qu'elle le fait forcément. D'accord? C'est une prérogative du pouvoir. Le pouvoir a le droit de mettre à mort, de condamner à mort qui il veut dans la mesure où c'est nécessaire pour l'ordre public. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est pas toujours nécessaire d'en arriver là. D'accord? Bon, là, jusque-là, nous avons donc 5 questions, n'est-ce pas, je crois. Les béné noirs ont-ils le droit d'habiter en Israël? Les béné noirs ont-ils le droit de vote? Les béné noirs ont-ils le droit de faire des sacrifices aujourd'hui? Doivent-ils payer le Beit HaMikdash? Pourquoi est-il plus dur d'être béné noir que juif au niveau des punitions? Ça fait donc 5. Si c'est vrai, ça veut donc dire que maintenant, ça sera la sixième, qui est tellement attendue. Le Shabbat, n'est-ce pas? Nous avons dans la Halakha une règle qui est mentionnée dans la Gemara. Goy chez Shabbat, Hayav Mita, un non-juif qui pratique le Shabbat est coupable de mort. Mais il n'est pas mis à mort. Le Rambam le dit que ça, puisqu'il fait partie de la liste des 7 commandements. Donc quand on dit qu'il est coupable de mort, c'est une manière de lui faire peur. Mais il n'est pas mis à mort. Mais la question qui se pose, c'est que ça semble contredire directement ce que dit Acherim. N'est-ce pas? C'est la question que tu posais tout à l'heure. C'est que d'après Acherim, le Ger Toshav, c'est celui qui accepte toutes les mitzvot sauf une. Donc ça veut dire qu'il ferait également le Shabbat. N'est-ce pas? Comment cela est-il possible? La réponse est que c'est totalement faux qu'un ben noir n'a pas le droit de faire le Shabbat. Je vais vous lire ici ce que dit le Rambam. Je crois que nous avons déjà parlé de ça, d'ailleurs, dans notre dernier cours sur la question.
Oui.
Ah, mais il n'y était pas. Il n'y était pas là. effectivement. Nous allons faire ça très rapidement. Dans le chapitre Yud Ala Alacha Yud. Non, Ala Alacha Tet d'abord. Chapitre Yud de Ilchot Melachim Alacha Tet. Le Rambam dit la chose suivante. Goy she'asak batorah chayav mita. Un goy qui a étudié la Torah est coupable de mort. Lo ya'asok ela be'sheva mitzvot shelahem bilvad. Il n'a le droit d'appliquer que les sept commandements. Vechen, de même, goy she'shavat, un non-juif qui a fait un jour de repos. Afilu be'yom imotachol, même dans un des jours de la semaine. Imasa oto le'atzmo kemo shabbat, s'il l'a fait pour lui comme un shabbat. Hayav mita. Ça veut dire s'il fait le dimanche ou le vendredi. Hein? C'est pas comme un Shabbat. C'est font pas d'une autre manière, mais il faut comme un Shabbat. Ven tsarich lomar imasa moed leatzmo, mais il n'est pas nécessaire de dire même s'il l'a fait par une fête pour lui. Klalo shel davar, de manière générale, en manichim otam lechadesh dat, on ne les laisse pas inventer une religion. Velaasot mitzvot leatzman midaatan, et de faire des mitzvot pour eux-mêmes selon leur propre opinion. Ela oye ger tzedek, il peut être soit un ger entier, veikabel kol ha mitzvot, ou accepter toutes les mitzvot. Oya amot betorato, ou bien rester dans sa loi à lui, velo yosif velo yigra, sans ajouter et sans retrancher, etc. D'accord? C'est-à-dire que l'interdiction du Shabbat pour le Rambam, c'est pas seulement le Shabbat, c'est toutes les mitzvot. C'est-à-dire il n'a pas le droit d'agiter un loulav. Il n'a pas le droit de donner la tzedaka. C'est trop bizarre, d'accord? Tout ça est interdit. Donc il n'aura de fait que cette mitzvot. Je lis la halakha juste après, la halakha Yud, qui dit exactement le contraire. Ben Noar, Sheratza la asot mitzvah. Si un Ben Noar veut faire une mitzvah, Mishar mitzvot à Torah, des autres commandements de la Torah, c'est-à-dire en dehors des sept, Kedel Kabel Sachar, pour en être récompensé. En Mouninoto la asotota kilchat, on ne l'empêche pas de la faire, selon les règles. Ah. Voilà la différence entre Goy et Ben Noir. Le Goy, c'est celui qui n'a pas accepté les sept commandements noachides. Mais le Ben Noir, c'est celui qui les a acceptés. À partir du moment où il les a acceptés, il peut étendre le champ des mitzvot autant qu'il veut, y compris le Shabbat. En tout cas, c'est comme ça que le Khatam Sofer et le Mishnah Brura ont compris ça. Le Khatam Sofer le dit expressément sur la base du Rambam, dans Khulin 33a. Et le Mishnah Brura dans Beur Halacha Siman Shin Dalet, à la fin du Siman, il explique que, justement, il se base sur Acherim, pour dire qu'il est impossible de dire que Acherim accepterait qu'il fasse le Shabbat, et que les Chachamim ne seraient pas d'accord là-dessus. Mais que le débat entre Acherim et Chachamim, et Rabbi Meir, c'est uniquement pour savoir quel est le minimum requis, mais pas le maximum. D'accord? Bon, ça c'est donc pour la question du Shabbat. Satisfaisant? Bon. Septième question. Les Bnei Noir ont-ils le droit d'étudier la Torah? Bah oui. Maintenant, il y a tout un texte dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, non, Masechet Bava Kamma, Dafla Metret Amudalev, chapitre 30, folio 38a. Rabbi Meir, toujours le même, qui dit Minain le nochri sh'osek batorah shu kikohen gadol. D'où savons-nous qu'un non-juif qui étudie la Torah est équivalent au grand prêtre? Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Asher ya'ase otam ha'adam v'chay ba'em, car il est dit, les commandements que l'homme accomplit pour acquérir la vie. Donc l'homme, c'est pas Israël, c'est l'homme, tout homme, donc qui étudie la Torah, est comme le Kohen Gadol, dit Rabbi Meir. Alors évidemment, vous connaissez tout de suite la question qui se pose, la question est posée dans la Gemara dans Sanhedrin. Oui, mais alors comment comprendre que Goy she'asak batorah chayav mita, qu'un non-juif qui étudie la Torah est chayav mita? Alors la réponse de la Gemara, oui, mais il s'agit de la Torah qui concerne ses commandements à lui. D'accord? C'est ce que dit la Gemara. Pourquoi est-ce que la Gemara n'aurait pas répondu, comme le Rambam, qu'il s'agit d'une différence entre le Goy et le Ben Noir? Oui? Non, mais les sept commandements, oui. mais le reste. Alors, la Guémara répond dans Maseret Sanhedrin qu'il s'agit de la Torah qui concerne ces sept commandements. C'est ça dont on dit qu'il est Kohen Gadol. D'après le Rambam, quoi ? Ah, d'où est-ce que vient le terme de Kohen Gadol ? Pourquoi est-ce qu'il est comme... Oui, alors effectivement, ça cadre pas avec ce que dit Rabbi Meir. En vérité, le Rambam a compris l'opinion de Rabbi Meir comme beaucoup plus large. Simplement, la Guémara, elle parle de quelque chose qui est équivalent aussi bien pour le Goy que pour le Ben Noir. C'est pour ça qu'elle a répondu de cette manière. Contrairement à ce qu'on peut... C'est pas ce que comprennent les Tosfot dans Maseret Yevamot. Mais d'après le Rambam, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la Guémara a parlé d'un minimum, pas d'un maximum. Effectivement, nous avons un texte assez extraordinaire de Maïmonide dans Ilchot Shemitah Veyovel. Ah ouais. Voilà, là. On trouvait. Un texte qui vaut la peine d'être bien étudié parce qu'il est souvent mal compris. Et ça serait intéressant quand même de l'étudier. Je lis ici dans Ilchot Shemitah Veyovel, les règles de l'année sabbatique et du jubilé, au chapitre 13. Les deux dernières halachot, qui sont les halachot 12 et 13, du chapitre 13. Velama lo zacha Lévi benachalat eretz Israël ou vizata imecha. Pourquoi est-ce que Lévi n'a pas reçu de territoire en eretz Israël avec ses frères? Les Lévites, ils n'ont pas de terrain. Ils n'ont pas de territoire. Mipnei shuvdal lavod et Hashem ul sharto le rod rachav haisharim jetav tzadikim l'arabim. Parce qu'il a été séparé pour servir Dieu, pour lui rendre un culte et enseigner ses droits chemins et ses lois justes à la multitude. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Yoru mishpatecha le Yaakov et Toratra le Israël. Ils enseigneront tes lois à Jacob, tes commandements à Israël. Les firach uvdelu midarche haolam, c'est pour ça qu'ils sont séparés du reste du monde. Lo orchim milchama kishar Israël, ils ne font pas la guerre comme tout le reste d'Israël. Velo nochalim, ils n'héritent pas. Velo zochim leatzma bechor gufam, et ne reçoivent rien de par leur propre, par la force de leur corps. Et là, Imchel Hashem, ils sont l'armée de Dieu. Chez Nehemar, Barech Hashem Chelo, car il est dit, bénis Dieu, son armée. Vehu Baruchu, Zochelahem, et c'est Dieu qui pourvoit leur subsistance. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ani Chelkecha Venachalatecha, je suis ton partage et ton héritage. Ça, c'est la halakha 12. Halakha 13. Maintenant, qu'est-ce que ça voudrait dire pour les étudiants de Yeshiva aujourd'hui, service militaire et tout le reste? Ce n'est pas le sujet de notre étude, donc nous n'allons pas approfondir la chose. Velo Shevet Levi Bilvad, mais pas seulement la tribu de Lévi, est là, mais... Alors tenez-vous bien, parce qu'il faut bien comprendre ce que dit le Rambam. Kol Ish Vaish Mikol Baya Olam. Tout homme de tous ceux qui viennent au monde. Ça veut dire quoi, tous ceux qui viennent au monde? Tout homme sur terre, juif, non juif. Asher nadva rucho oto, qui a une générosité d'esprit, ve'evino madao, et que sa science a fait comprendre, lehibadel, qu'il fallait qu'il se sépare, la amod lifne Hashem le shareto, ou l'envdo, qu'il se présentait, se tenir devant Dieu, pour lui rendre un culte et le servir, l'idea et Hashem, pour connaître Dieu, ve'alach yashar ke Moshe asahu a Elohim, et qui se comporte avec droiture comme Dieu l'a fait, ou Farak Me'al Tzavaro, et qui a libéré son cou. Oh la Cheshbonot Arabim Asher Bikshu Bnei Adam, de tous les calculs nombreux que les hommes demandent, c'est-à-dire quelqu'un qui se consacre donc au service de Dieu, à la connaissance de Dieu, Harezenit Kadesh, eh bien il s'est sanctifié. Kodesh Kodashim, comme le Saint des Saints. Expression, je viens au Kohen Gadol. Veillez Hashem Chelko Venachalato Leolam, et Dieu sera son partage et son héritage pour toujours, ou l'Olme Olamim, et pour l'éternité. Vizkelo Baolam Azed Davar Amaspiklo, et le gratifiera dans ce monde quelque chose qui lui suffira, que Moshe Zacha la Kohanim la Leviim, comme il l'a donné aux Kohanim et aux Lévites. Haré David Alav Shalom, d'ailleurs, le roi David, que la paix repose sur lui, Omer disait Hachem menat chelki vechossi atat omir gorali, Dieu qui est ma part de partage et mon héritage, c'est toi qui vas étendre mon lot. Voilà. Vous avez remarqué que Rambam prend comme exemple de cela le roi David. Le roi David, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Combien de guerres ? 18. C'est-à-dire, le fameux consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui fait 18 guerres. Ça, c'était une remarque concernant les étudiants d'Yeshiva. Mais, revenons donc à notre sujet. Donc, le Rambam nous dit qu'il y a cette situation de sanctification qui concerne tout homme sur terre, dans la mesure où, évidemment, il accepte les commandements noahides. Donc, ça s'appelle la Torah du Ben Noah. La Neshama, donc on a fait la septième, mais non, c'est la huitième. La Neshama d'Aben Noah. La Neshama d'Aben Noah. Vous avez déjà rencontré, vous, la Neshama d'un juif ? Tu l'as rencontré ? La nôtre, elle est assez éthérée, hein, c'est difficile de rencontrer sa Neshama. Donc, vous posez des questions extrêmement dures. Oui, évidemment, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Le goy n'a pas de neshama, il n'a qu'un nefesh. Où est-ce que tu as tiré ça ? C'est ce qu'on croit que le Tania dit. C'est ce qu'on croit que le Tania dit. Je vais vous lire le Tania. Simplement, qu'est-ce qu'il dit le Tania ? Il n'y a pas un Tania ici ? Il y a un Tania ici. Attends une seconde. Dans mon bureau, tu vois les petites étagères là comme ça, hein, en bas ? Alors, il y a un tout petit Tania là-bas. D'accord. On va lire le Tania et tu vas voir. Cette lecture du Tania est une lecture extrêmement nocive, mais j'ai reçu par tradition l'interprétation véritable de ce texte du Tania. Comment est-ce que je l'ai reçu ? Je l'ai reçu du Rav Léon Ashkenazi, qui l'a reçu du Rav Yitzhak Schneerson, qui était le cousin du Rabbi de Lubavitch, qui lui a enseigné ce texte. Et vous allez donc voir comment est-ce qu'il faut le lire. Bon, une seconde, je vois que ça prend du temps. Donc je vais aller le chercher moi-même. Comment ? Bon, ça va, ça va. Alors, que dit le Tania ? Le Tania traite du statut de... Bon, la première partie parle de la Neshama. Oui, enfin, disons, il fait la différence entre le Tzadik et le Benoni. Et puis après, il y a des considérations théologiques sur le panthéisme et tout le reste. Puis après, il y a encore des tas d'instructions, de teshuvah et tout le reste. Voilà. Voilà. C'est un des livres fondamentaux de la Chassidut de Chabad. D'accord ? Oui, le Tania, c'est le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Ladi. Comment ? De Ladi. D'accord ? On se l'a dit. Il n'était certainement pas de Lubavitch, puisqu'il n'habitait pas là-bas. C'est son fils, le Admor Haemtsaï, qui est passé à Lubavitch. Et donc, c'est depuis devenu les rabbis de Lubavitch. Mais lui, c'est le premier, il est fondateur du chassidisme de Chabad, mais il n'est pas de Lubavitch. Son maître, c'est le Magid Dov Ber de Mezerich, qui était le grand élève de Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme. Donc, c'est la troisième génération du chassidisme. Alors, il y a ici un texte qui est très souvent mal interprété. Alors, je vais vous le lire. L'école Ish Israël, Echad Tzadik Vechad Racha Yeshte Neshamot. Tout homme d'Israël, qu'il soit juste ou méchant, il a deux âmes. Dirtiv, ainsi qu'il est dit, Unshamot Ani Asiti, car il est dit, c'est moi qui ai fait les Neshamot. Donc, il y en a deux. Shen Shete Nefashot, qui sont deux Nefashot. Nefesh Achat, Mitzad Aklipa Vesitra Ahara. Une des deux âmes, on parle ici donc de l'âme d'Israël, une des deux âmes vient du côté de l'écorce et de l'autre côté. C'est-à-dire, elle vient du mal. Via Mitlabeshet Vedama Adam Lachayot Aguf. C'est elle qui rentre dans le sang de l'homme pour faire vivre le corps. Une âme qui vient du mal et qui fait vivre le corps. Et comme sympathique cette âme. Urdirtiv, qui nefesh abassar, badami, ainsi qu'il est dit, l'âme de la chair est dans le sang. Umimena baot kolamidot araot, et c'est de cette âme-là que viennent toutes les mauvaises midot, les défauts. Nearba yesodot raim, sheba, des quatre éléments mauvais qui sont en elle, des haïnou qui sont, kaas, vegaava, misodaesh, la colère et l'orgueil qui viennent de l'élément du feu. Veta avatata anugim isodamaim, et les désirs qui viennent de l'eau. Veholelut veletsanut, et la plaisanterie et la moquerie, veit paharut, et la morgue, ou dvarim betelim, et les bêtises, misodaruar, ça vient du vent. On va savoir d'où vient le vent. Veatslut veatsvut, et la tristesse et la paresse, misodéafar, de l'élément terre. C'est pas un jeu de mots. Vegam, donc c'est la première des deux nefashot, c'est elle qui nous amène au mal. Vegam midot tovot, shebeteva kolish Israël betoldotam, et de même les bonnes qualités qui se trouvent dans la nature de tout Israël par hérédité, kemor rachmanut ugmilut chassadim, comme la miséricorde et la générosité, baot mimena. Ça vient de là-bas. Ki be Israël nefesh zodi klipa imiklipat noga, parce qu'en Israël, cette nefesh là, qui vient de la klipa, vient de l'écorce qu'on appelle noga. Noga, ça veut dire la lueur. Sheyeshba gam kentov, qui comporte également du bien, vehi misod etzadat tovara, et qui vient de l'arbre du bien et du mal. Donc dans la première nefesh, en Israël, il y a du bien et du mal. Mashenken, nafshot agoim, ce qui n'est pas le cas des nefashot des goim, hen mishar klipot temeot, qui vient des autres klipot impures, shen baem tov klal, qui n'ont pas du tout de bien. Il amène ici une preuve de la Gemara, etc. Jusque-là, vous suivez?
Oui.
Bon. Alors, une seconde. Donc, on parle ici de la première nefesh. La première nefesh, chez les juifs, elle est mélangée de bien et de mal. Chez les non-juifs, elle est faite de mal. N'est-ce pas?
Oui.
La première nefesh. Oui. Ve-nefesh ha-shenit be-Israël, quant à la deuxième âme, en Israël, ir-chelek Elohim imal mamash. Elle est une partie de Dieu véritablement. Ainsi qu'il est dit, etc. Bon, que veut dire une partie de Dieu? Je ne vais pas discuter de ça pour l'instant. Mais alors, certains lecteurs du Tanya ont compris que ça veut dire que la deuxième âme n'existe qu'en Israël. Mais c'est pas comme ça qu'il faut lire, c'est une question de virgule. Venefesh Hashenit, quant à la deuxième nefesh, Be Israël, Yichelek Elohim Imal Mamash. Chez les Juifs, elle est une partie donnée par Dieu lui-même. Et la deuxième âme, chez les Goyim, elle est chelek Elohim imal, mais pas mamash. C'est-à-dire qu'il y a une différence de nature entre la neshama, la deuxième donc nefesh qu'on appelle neshama, chez Israël et chez les nations. Mais il y a une neshama. D'accord? C'est comme ça que Rabbi Yitzhak Schneerson, le cousin du Rabbi de Lubavitch, lisait ce texte. Et il a raison, on peut le prouver si on regarde les citations du Etz Chaim qui sont entre parenthèses dans le texte. Bon. Est-ce que c'est contraire au Rambam ou pas? Peut-être, mais ça ne fait pas partie des questions de ce cours. Neuvième question. Les Béné Noir ont-ils le droit d'être enterrés avec les Juifs ou les chrétiens? Avec les Juifs, virgule. Ah, tu mets une virgule, comme Rabbi Yitzhak Schneerson. Ou les chrétiens? En principe, on n'enterre avec des juifs que des juifs. Mais dans la mesure où c'est un non-juif vertueux, je ne vois pas très bien pourquoi ça serait interdit, mais l'usage n'est pas de le faire. Mais est-ce qu'un bednoir peut être enterré avec des chrétiens? J'ai rencontré un bednoir qui était très préoccupé par ça, parce que sa femme, qui elle est chrétienne, voulait savoir s'il serait enterré à côté d'elle. Il a été très heureux d'apprendre qu'il pouvait être enterré à côté d'elle. Mais je lui ai dit, sans croix. Pas de mettre une croix. Sur sa femme, celle de sa femme, elle est chrétienne, elle fait ce qu'elle veut. Les Béné Noir et Triat Hametim. C'est quoi Triat? Atehiyat. Parce qu'il y a écrit Triat. Les Béné Noir, ils font partie de Triat Hametim. De ma question, les Béné Noir et le Olam Haba, ils n'ont pas le Olam Haba. D'après le Ramchal, oui. Les Béné Noirs en politique, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est que les Béné Noirs en politique.
Est-ce qu'ils ont le droit
de diriger les politiques? Bon, on a déjà parlé de ça. Explication d'Evs, cette loi Noachide. Bon, mais ça, écoute, ça, c'est, il faut étudier tout le Rambam. C'était très rapide. Le Ben Noir qui se marie avec un ou une goy, il s'est marié, quoi.
On est l'enfant.
Ah, est-ce que le fils est-il, ça c'est la question d'après. Le fils est-il Ben Noir ou doit-il repasser devant le Bedin? Certains rabbins ont essayé de déduire du Rambam que ça ne se, que une fois que c'est, que s'il y a une communauté de Ben Noir, les enfants sont automatiquement Ben Noir. Je vais vous dire, les preuves sur la base du Rambam ne m'ont pas paru convaincantes, mais il y a un texte du Meiri qui semble dire qu'effectivement, il n'a pas besoin de repasser devant le Bedin. Risque de confusion juif et ben noir s'il porte la kippa. C'est vrai. C'est pour ça que nous recommandons aux Noahis de porter une kippa particulière. Vestiment. Je ne sais pas, ils peuvent inventer leur kippa à eux. Par exemple, les Breslaves, ils ont leur kippa. Ouais, ils peuvent faire une kippa comme ils veulent, je sais pas. Par exemple, je sais pas, avec des clochettes, un truc, je sais pas. Par exemple, en France, comment est-ce qu'on reconnaît un juif en France? Il porte la casquette. D'accord? J'ai même vu à Paris une casquette sur laquelle il y avait brodé Danach Nachman. Bon, vestiaire. Pas mal. C'est le type, il a feinté comme ça, on saura pas qu'il est juif, puisqu'il a une casquette. D'accord? Je ne sais pas, d'ailleurs, en France, des gens m'ont reconnu comme juif, je ne sais pas comment. Ouais. C'est la cravate, certainement, c'est ça. Voilà. Bon, vestimentaire ben noir, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. A-t-on le droit de faire monter à la Torah un ben noir pour motif? Non. Où est fait mention dans la Torah des ben noirs? Quoi? Ils sont quoi? Ah, est-ce qu'ils ont des règles de tzniut? C'est pas écrit dans la Torah. Ils peuvent très bien adopter des règles. Ils peuvent très bien. Arayot, c'est une chose, mais la tzniut, c'est pas la même chose. Non, on a c'est l'interdiction de l'otikrevu. Chez eux, les règles de Arayot sont beaucoup plus restreintes. Où est-il fait mention dans la Torah des Bnei Noar? Un peu partout. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.